Alors, rebonjour à tous et je vous remercie d'être là parce qu'on a la grande chance d'avoir avec nous Brandon Sanderson, nouvel auteur notamment de fantasy que l'on découvre chez nous depuis quelques mois, si ce n'est pas loin de 2 ans maintenant, avec, on va le voir, de la fantasy qui est vraiment très intéressante parce que pour le coup, ça change avec vraiment des révolutions, des aspects techniques. Voilà, on va parler d'un petit peu de tout ça. Pour vous donner un petit peu ses ouvrages, on vous recommandera très chaudement notamment Elantris chez Orbit et la série Fils de Brume, dont le premier tome, L'Empire Ultime, est sorti il y a quelques mois et le deuxième tome vient tout juste de sortir. Et puis chez Mango, il a commis 2 très bons livres dans la série Alcatraz, et notamment Alcatraz contre les infâmes bibliothécaires. Voilà, nous allons pouvoir parler de tout ça. Et donc, on est très content de pouvoir l'accueillir aujourd'hui. Brandon Sanderson, on va peut-être revenir un petit peu sur vos débuts. Tout à l'heure, vous me disiez qu'adolescent, vous n'aimiez pas lire, jusqu'au jour où vous avez découvert un livre, grâce à une prof de français, une prof d'anglais, pardon. Est-ce que vous pouvez nous raconter ?
Oui, avec plaisir. Alors, il y a beaucoup d'auteurs qu'on voit, en fait, et ils commencent à lire très tôt, et ils écrivent très tôt. Mais, en fait, les profs appellent des gens comme moi des lecteurs hésitants. Et souvent, c'est des garçons qui sont au début du collège, des trucs comme ça. Ils arrêtent de lire. Et moi, je lisais des livres de chiens morts. Et c'est des garçons qui ont des chiens, et puis le chien, il meurt, et c'est la fin du livre. Donc voilà, moi, je lisais des choses comme ça. Moi, j'étais un peu ennuyé par ces choses-là, donc j'ai arrêté de lire. Et j'étais donc à la fin de ma scolarité et j'avais un prof, il s'appelait Miss Reader, ça veut dire Madame Lectrice en fait, bizarrement, et elle est devenue professeure à l'Université de Californie. Et elle a refusé de me laisser glisser comme ça, de me laisser dériver. Et elle m'a obligé à lire des livres difficiles. Et le livre qu'elle m'a obligé de lire, c'était un livre de Barbara Henley, Dragon's Den. Et vraiment, ça sonnait chez moi. J'adorais le genre de fantasy. Je ne savais pas qu'il y avait quelque chose d'aussi merveilleux avec autant d'imagination. Et c'est drôle parce que j'ai terminé le livre. Je suis allé voir cette prof le lendemain. Et j'avais dit, il y a des gens qui écrivent des livres sur des dragons. Et donc, elle a rigolé parce qu'il y en a des centaines. Mais après, elle m'a envoyé voir les choses dans le catalogue. Donc, c'était avec des fiches Bristol à l'époque, bien sûr. Et c'était par ordre alphabétique. Et donc, il y avait ces cartes, ces fiches. Et à côté de Dragon's Bane, il y avait un livre qui s'appelait Dragon's Flight, le vol du dragon. Et c'est un des livres de fantasy énorme. C'était Anne McCaffrey, ça a gagné un prix Novello. Un livre absolument brillant, c'est beau. Et là, j'étais accroché. Et là, c'était pour la vie.
À ce moment-là.
J'avais 14, 15 ans, quoi.
Vous avez décidé d'en écrire vous-même.
Eh bien, j'ai passé l'été. Donc, quand j'avais 14 ans. Donc, c'était l'été après, donc j'avais une quinzaine d'années. Là, j'ai commencé à découvrir tout ça tout seul. Et c'est un thème qui est fréquent chez les lecteurs. Quand ça explose, en fait, on peut explorer des choses, on peut découvrir des choses. Et là, je regardais le genre que j'adorais. Et j'ai commencé mon premier livre après cet été de lecture. J'étais immergé dedans totalement. Et quand on est ado, en fait, on essaie de voir qui on est, se découvrir. Et là, jusque-là, je surfais sur la vague, en fait. À l'école, j'avais des notes moyennes. J'étais pas mauvais, mais j'étais pas brillant non plus. Et ce qui manquait, c'était la passion. Je n'avais aucune passion. Et quand j'ai découvert ces livres, j'avais dit, c'est moi. Maintenant, j'ai un but. et je voulais là être quelqu'un qui peut créer ces émotions chez le lecteur. C'est ce même sentiment que créaient ces grands auteurs. Et donc, mon but, c'était de devenir auteur. Et donc, j'avais une raison de faire attention dans les cours. Il y avait une raison d'aller à la fac. Et ça, ça m'a changé fondamentalement en tant que personne. Et j'ai passé beaucoup de temps à écrire. Je ne savais pas ce que je faisais, mais j'ai passé beaucoup de temps à écrire pendant au lycée, quoi, toute la journée au lycée. Et puis à la fac, j'ai commencé mon premier roman sérieux. J'avais 19 ans quand j'avais commencé, j'avais 22 ans quand j'ai terminé.
Publié, hein, pour le coup.
It hadn't been published. Non, ça n'a pas été publié. Et comme beaucoup d'auteurs, de jeunes auteurs, de nouveaux auteurs, et j'étais, en fait, je suivais les autres. Et j'étais peut-être trop influencé par ce que j'ai lu. Je venais de lire Dune. Et donc, c'était une copie de Dune. Et beaucoup d'auteurs commencent comme ça. On commence en copiant les grands maîtres. Et c'est pour ça que ce livre n'a jamais été publié. Et c'est pour ça aussi que ce livre ne sera jamais publié sous cette forme. Parce que c'était mon truc, mais c'était principalement le travail de quelqu'un d'autre que je copiais sans m'en rendre compte. Mais pour devenir auteur, le processus, c'est comme si on veut devenir musicien. Et il y a beaucoup de gens qui ne le comprennent pas. Ils supposent que le roman, ça sort de quelque part sans s'entraîner. Mais les auteurs, ils passent autant de temps à s'entraîner qu'un musicien avec le piano. Au début, c'est des choses, les gens, ils veulent pas le lire. Comme un musicien, on fait des choses, les gens, ils veulent pas écouter ça, quoi. Et mes premiers romans, c'était ça.
Quelles sont les études que vous avez suivies et à quel moment vous vous êtes dit que finalement vous vouliez plutôt écrire qu'avoir votre diplôme ?
Alors, je suis allé à la fac. Quand je suis allé à la fac, il ne faut pas oublier, ma mère, c'est quelqu'un de merveilleux. Mon éthique de travail, ça vient d'elle. Et ce que je suis moi, ça vient d'elle. Mais elle est extrêmement pragmatique. Elle est comptable. Et pour elle, être auteur, on ne fait pas ça comme boulot. Elle ne comprenait pas. Donc, elle m'a convaincu qu'il fallait... Il fallait aller à la fac faire la biochimie pour être médecin. Parce que médecin, c'est un bon boulot. Hein, donc, quand on fait ces colonnes de comptabilité, c'est bien. Auteur, c'est un passe-temps. Donc, ma première année, c'était en biochimie. C'était pas affreux, hein, c'était pas mauvais. Parce que j'ai toujours adoré les sciences. Mais dans mes livres de fantasy, il y a un élément scientifique très fort. Je fais la fantasy dure, en fait. C'est comme la science-fiction hard. Et donc, on veut changer quelques lois de la physique et traiter ça comme des nouvelles branches de science et voir ça avec une logique scientifique. Donc, il y a ce côté hybride. Ça vient de mon amour de la science. Donc, c'était bien pour moi, la biochimie, sauf que je n'aime pas les maths. Alors, je peux faire. Et là, dans les cours de maths, je n'avais pas de problème. Mais je n'aimais pas le côté besogneux, le travail quotidien. Alors que j'adore le travail quotidien d'écrire. Quand j'écris, c'est merveilleux. Même quand c'est dur, j'adore. Ça me plaît. Donc, après un an, j'ai décidé de changer pour faire des études anglaise en fait. Donc, et je suis mormon aussi. Et je suis allé 2 années en Corée. J'étais dans un autre continent. C'était pas les maths et la chimie. Donc les maths, ça me manquait pas. Mais l'écriture, ça me manquait. Donc mon temps libre, j'écrivais. Donc quand j'avais du temps pour moi-même, j'avais 1 heure par exemple. Ce que je voulais faire, c'était écrire. Quand je me suis rendu compte de ça, je me suis rendu compte qu'il fallait que je change. Là, après, je suis allé à la fac et j'ai changé. J'ai fait des études de lettres et je me suis dit, bon, je ne sais pas si je vais réussir, mais je dois le faire, c'est moi. Et donc, j'ai commencé à écrire à temps complet pour devenir auteur professionnel.
Sur la publication d'Elantris. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment l'idée d'Elantris est née et comment est-ce que vous pourriez présenter ce livre?
Oui, bien sûr, avec plaisir. J'ai grandi en lisant les fantaisies épiques des années 80-90. La Roue du Temps de Robert Jordan, Anne McCaffrey, donc les histoires des dragons, Tad Williams, et Tolkien, bien sûr, David Eddings, des auteurs comme ça. J'ai adoré. Alors, quand il fallait écrire mes propres livres, une fois que j'avais dépassé la phase de copier les autres, j'avais ma propre voix, mon propre style, là, je me suis rendu compte que j'étais fatigué de voir les gens qui voulaient prendre le même chemin qu'avaient été les mêmes chemins pris par Tolkien et Jordan, quoi. Donc, les histoires de fantasy épique, c'est la même chose que Star Wars, la guerre des étoiles, quoi. C'est le héros, quoi. C'est le voyage du héros. Et je me suis dit, bon, là, moi, j'ai pas grand-chose à explorer là-dedans. Alors, qu'est-ce que je peux raconter comme nouvelle histoire? Et c'était un équilibre très difficile, en quelque sorte. Parce que je voulais créer les mêmes sentiments que ces livres classiques, mais je ne voulais pas prendre le même chemin. Donc, je cherchais de nouveaux endroits à explorer. Il y avait l'idée de magie basée dans la science. Elantris, c'est la magie du monde, basée sur la géométrie. Je ne peux pas en parler parce que sinon ça gâcherait le livre. Mais dans ce monde, les gens peuvent être transformés du jour au lendemain. Ils peuvent devenir divins. Ils ont des pouvoirs magiques. Et personne ne savait pourquoi. Et le pourquoi, c'est l'âme de la série, c'est l'âme du monde. Mais personne ne l'a compris. Et l'histoire, c'est ce qui se passe quand la magie s'arrête. Donc 10 ans avant le début du livre, la magie disparaît. Ces êtres divins perdent leur pouvoir. Et ils avaient cette maladie, ils deviennent lépreux en quelque sorte. Et ils vivaient à Elantris, cette belle, magnifique ville. Et les gens ne savaient pas quoi faire parce qu'ils avaient peur que la maladie se répande. Et aussi le fait que les anciens dieux les testaient. Donc ils ne voulaient pas les tuer et tout ça. Donc ils ont enfermé dans cette ville. Et ils étaient laissés là pour pourrir. Mais cette force qui transformait les gens en dieux à l'époque, la force est toujours là. Mais ça les transforme en épave humaine, en quelque sorte. Et donc, c'est le prince du royaume qui chope cette maladie et son père l'enferme dans la ville avec les gens qui étaient les dieux et maintenant ils sont pires que des mendiants. Et lui, il doit survivre là-dedans. La source de cette histoire, c'était en partie. Moi, j'adore lire des livres d'histoire. Et le concept de la maladie à d'autres époques. Et une maladie, la moindre maladie, en fait, ça crée une panique parce qu'il n'y avait pas d'antibiotiques, par exemple, il n'avait pas la propreté qu'il y a maintenant, les conditions d'hygiène. Et donc, parfois, c'était une sorte de peste divine. Et donc, on coupait tous les ponts avec cette personne, on les laissait mourir parce que c'était trop dangereux de faire autrement. Donc, cette idée de colonie de lépreux ou la peste, par exemple, il y avait des pestiférés. Et je voulais raconter l'histoire d'une ville qui avait été frappée par cette maladie magique qui était liée à la physique du monde. Et l'histoire, donc, parlera de la raison pourquoi est-ce que la magie ne fonctionnait plus il y a 10 ans.
Enfin, vous placez, et nous, le même lecteur, du côté de ces gens qui sont malades, et vous avez presque un message d'espoir, parce que votre héros va un peu les rassembler quelque part, il va être très positif.
Oui, c'est ça le côté dichotomique du livre, en fait. Ce n'est pas déprimant. malgré le contenu, malgré le thème. Parce que c'est un optimiste, au fond, qui est frappé par cette maladie. Donc sa religion dit qu'elle est damnée pour toujours. C'est une peste divine. Donc il est jeté dans le ghetto, dans cette ville. Mais c'est quelqu'un. Donc sa vie est parfaite et puis tout d'un coup, plaf, ça se casse. Et comment on garde l'espoir? Qu'est-ce qu'on fait? Que fait-on pour se battre si on fait quelque chose?
Redécouvrir un savoir ancien en découvrant une ancienne bibliothèque. Est-ce que là, on sent un peu votre amour, vous, des livres et justement des livres d'histoire? Est-ce que c'est la partie que vous avez mis de vous-même dans le livre?
Ah oui, absolument, tout à fait, oui. Moi, j'adore les livres, oui. Et il y a longtemps, j'ai lu un essai de Isaac Asimov. Et c'était un peu contre la fantaisie, c'était un petit peu méprisant, mais bon. Il avait dit que pour lui, la science-fiction, c'était le genre des scientifiques intelligents qui trouvaient des façons de combattre les hommes musclés et forts. Et donc c'est Conan, par exemple, c'est les forts, bruts, c'est eux qui gagnaient contre le magicien qui était intelligent. Et lui, il faisait l'inverse. Et je suis contre depuis toujours, parce qu'il n'y a rien d'intrinsèque dans l'un genre ou dans l'autre. Et moi, je suis fasciné dans la fantaisie quand il y a des personnages qui, à l'aube du raisonnement scientifique, peuvent voir la magie, qui essaie d'appliquer une méthode scientifique pour voir comment ça marche. Cette époque de l'histoire humaine, c'est fascinant. L'aube de regarder des choses d'un point de vue critique et tester empiriquement, de voir, d'apprendre. Et dans ce livre, une partie de l'histoire, une partie de l'histoire, c'est pourquoi la magie s'est plantée. Et donc, il y a cet homme avec peu de ressources qui essaie de résoudre ce problème scientifique pour voir ce qui s'est passé à la nature de son monde.
Fils des brumes, hein, et le premier tome qui s'appelle L'Empire Ultime, on en parlait un petit peu tout à l'heure, avec des correspondances et une fantaisie peut-être un petit peu sociale, puisque là vous vous placez du côté des pestiférés. Et dans L'Empire Ultime, il va carrément y avoir une espèce de révolution. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, finalement, d'être proche des bannis.
Oui. C'est un thème commun à plusieurs livres, parce que on pense qu'on était exclu. Parce que quand on grandit sans Internet, c'est très solitaire. Et être le seul à aimer ça, et je crois qu'on le voit dans ce que je ressens. Mais en même temps, j'aime ces moments de changement, de cette dynamique sociale, cette dynamiquitude, comme il a dit. Mais c'est des moments, c'est des carrefours de l'histoire, c'est des changements. Et donc, on voit ce thème dans mon travail.
Un petit peu la tête d'un mouvement, des héros finalement très positifs. C'est ce que vous aviez envie de montrer, de souffler?
Généralement, je commence pas un livre en disant « je veux montrer ceci, je veux faire cela ». Je laisse les thèmes se développer naturellement. Il faut que ce soit complémentaire par rapport aux personnages, par rapport à qui ils sont, mais aussi la personne que je suis moi, ça crée les personnages aussi, ça influence les personnages. Donc en fait, c'est une expérience réciproque, mutuelle. Donc moi, je les influence, eux, ils influencent l'histoire. Mais je commence avec, par exemple, une idée, et puis je vois où ça veut aller, l'Empire Ultime. Donc les romans Mistborn, Le Fils des Brumes. Là, j'ai lu beaucoup de fantasy d'avant, et j'adore. Et je voulais faire une sorte de fantasy épique de quelque chose de conscient. Donc c'est un petit peu moderniste ou postmoderniste. Donc tout simplement, je veux dire, je voulais le voir d'un autre point de vue. Et Miss Bourne, l'idée c'était de voir les films du Seigneur des Anneaux. Et l'archétype mythique du voyage du héros, souvent, il y a Sauron ou il y a Voldemort. Et il y a le seigneur du côté obscur, en quelque sorte. Hein. Donc David contre Goliath. Et il y a David qui confronte l'autre, qui n'a rien, il n'a pas de pouvoir, il n'a pas d'influence, mais il réussit à combattre le géant. J'adore ces histoires. Luc contre Darth Vader. Mais ces seigneurs obscurs, en fait, ils ont rien fait d'autre. Là, il y a toujours ces connards de gamins qui viennent de nulle part les battre, quoi. Et c'est chiant. Et s'il y avait quelqu'un où, en fait, le seigneur sombre, en fait, il gagne. Frodon, à la fin, et Sauron, il dit, bon, merci de m'avoir ramené l'anneau, je cherche ça depuis un petit moment. Et puis, il le tue, et puis, voilà, il conquiert le monde. Et Harry Potter, à la fin, Voldemort, il dit, bah, t'es un petit débile, toi. Moi, je suis le plus grand magicien de tous les temps. Zap, il le tue. Et puis, je dis, non, je suis auteur, je peux le faire. Je me suis dit, bon, ce serait peut-être un peu déprimant d'écrire cette histoire. Et donc, j'ai décidé de faire de ça l'histoire du monde. Donc, le héros avait fait son voyage et il avait fait sa prophétie. Et puis, il a raté son coup. Et c'est le seigneur obscur qui gagne. Et ça s'appelle l'empire ultime, parce que pour lui, c'est l'empire ultime. Et c'est lui qui règne sur tout. Et là, en fait, c'est une bande de voleurs. Ah, donc, j'aime bien les histoires de cambriolage. Ocean's Eleven, l'arnaque, des choses comme ça. Donc, un groupe de spécialistes se mettent ensemble pour faire quelque chose d'impossible. Donc, c'était pas un livre sur une révolution au début. C'était une histoire d'un groupe de cambrioleurs qui voulait voler, qui voulait cambrioler avec le seigneur obscur. Là. Et Kelsier, il est passionné. Il en a marre de voler et il veut changer le monde. Et à cause de ce que lui, il voulait, et de qui il était, c'était ça le moteur. Et donc, c'est devenu une sorte d'épique révolutionnaire. Et c'est moins un truc de cambriolage maintenant, parce que c'est pas assez sérieux pour ce personnage. Et il fallait que ce soit plus sérieux. Donc j'ai retravaillé le livre, j'ai restructuré, et c'est devenu l'histoire de lui qui utilise ses compétences en termes de voleur, mais pour changer le monde.
Question sur la création du monde, parce que c'est toujours intéressant d'avoir des auteurs comme ça qui créent complètement un monde. Et dans l'Empire Ultime, ce qui est très intéressant, c'est le système de magie qui est assez innovant. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Yes. Oui, la magie, j'espère que c'est distinctif. J'ai parlé du fait de que j'aime mélanger la science et la magie. Et en particulier, j'aime l'époque, j'aime la période où la science a commencé à émerger. Et ce qui est fascinant à cette époque, il y a cet émerveillement. La science, c'était une magie en soi. Je me souviens, j'ai lu quelque chose à l'école, c'était quelqu'un qui avait écrit ça en 1910 peut-être. Et c'était... Et il avait écrit la science de creuser des fosses et des fossés. Et donc, il expliquait comment ils pouvaient améliorer leur travail en utilisant une démarche scientifique. Et donc, comment la science peut aider tout le monde. Et il y a ces découvertes en permanence. Et donc, il y avait cette imagination, cet émerveillement. C'était merveilleux, quoi. Les gens étaient émerveillés. Mais on a vu que la connaissance qu'il faut avoir, la base pour comprendre ces nouvelles découvertes, maintenant, ça va de plus en plus haut. Et on a perdu un petit peu cette idée d'être émerveillé. Il y avait la peur, c'était ça qui remplaçait ça. Ah, surtout avec les communistes et tout ça, les rouges, la bombe atomique et tout ça. Et donc, la science-fiction de l'époque était le miroir de ça. Et maintenant, la science-fiction, c'est très intéressant, mais on parle de physique quantique ou la singularité ou des concepts comme ça. Donc, c'est génial, c'est incroyable, mais il n'y a pas ce sens du merveille, du merveilleux. C'est pas ça. Et c'est quelque chose qui existait avec l'émergence de la science. Et ça, ça me fascine. Alors, ce que je fais de plus en plus dans mon travail, c'est que je crée des systèmes magiques qui utilisent, qui s'alimentent de la science. Mais les gens, ils commencent à comprendre. Et dans le Fils des Brumes, la magie, c'est très bizarre au début, parce qu'il faut ingérer des morceaux de métal. Et les gens se rendent compte que les allomanciers peuvent utiliser ce métal, ils peuvent brûler ça pour avoir un effet incroyable. Bon, ça a l'air très bizarre, certes. Et d'où ça vient? Ça venait de ce que j'avais lu, de l'idée du métabolisme. En tant qu'être humain, notre énergie, ça vient parce qu'on métabolise l'alimentation, la nourriture. C'est comme ça qu'on trouve l'énergie. Je voulais mélanger ça avec le concept d'alchimie. Et c'est une étude préférée de moi. Je l'adore parce que les scientifiques, les vrais, légitimes, font en sorte que ça peut marcher. C'était une des premières choses. C'était une pseudo-science. C'est pas réel. Il y a rien. Alors, des vrais scientifiques utilisaient des méthodes scientifiques. Pour ça, ils ont découvert petit à petit qu'il avait fait ça. Newton, il croyait à l'alchimie. Il essayait de faire fonctionner l'alchimie. Et donc, l'alchimie, c'est un point tournant. La science et la magie se sont fusionnées. C'est un peu comme l'estuaire, en fait. Hein. Donc, l'eau n'est pas l'eau douce, c'est pas l'eau de mer, c'est entre les deux. C'est ça, l'alchimie. Donc, la superstition, les sciences qui se confrontent de face. Et moi, j'aime bien écrire des livres où cette superstition est basée dans les faits, dans la réalité. Donc, ils brûlent ces morceaux de métal pour créer des effets incroyables. Ça a l'air bizarre, mais quand on le lit, là, ça a un sens. Ça a un sens, bizarrement, parce qu'il y a quelque chose qui résonne. Enfin, c'est ce que j'ai vu quand j'ai développé ça. Je me suis dit, mais non, c'est beaucoup trop bizarre. J'ai écrit quelques scènes, mais c'était naturel. Et je me suis dit, bon, c'est ça que je veux.
On a vu deux livres, notamment avec L'Empire Ultime. On a carrément une révolution. Je voulais faire le lien avec des ouvrages jeunesse, qui sont les ouvrages Alcatraz. Quels sont pour vous les liens? Alors Alcatraz, on va vite raconter, c'est un petit garçon qui se redécouvre un grand-père et qui va vivre plein d'aventures, notamment contre des infâmes bibliothécaires. Quels sont les liens pour vous entre vos mondes de fantasy et ce monde-là un petit peu différent?
Alcatraz, en fait, c'est assez unique, puisque c'était en fait normalement une comédie, mes autres romans ne le sont pas, en fait. C'est quelque chose de très plus sérieux, mais il y a quelques scènes amusantes. Mais Alcatraz, donc, c'est l'histoire de ce petit garçon donc, qui découvre en fait que les libraires gèrent le monde. Et donc, d'une certaine façon, c'est une auto-parodie. Je pensais que j'avais besoin en fait de faire une pause hein, dans mon écriture et faire quelque chose d'autre. Et je voulais aussi que ce soit un regard sur les théories de cette conspiration. Hein. Il y a des livres à ce sujet, comme pour tous les thrillers qu'on peut lire, hein, comme le Da Vinci Code, par exemple, où il y aurait donc une société secrète qui gérerait le monde. Et pour moi, c'est totalement ridicule, hein, mais bon, c'est une opinion personnelle. Nous, en tant qu'êtres humains, on ne peut pas se mettre d'accord sur le type de pain que l'on veut manger. Alors comment s'entendre hein, pour gérer le monde de façon secrète hein. Alors je voulais donc écrire un livre qui s'amuserait de tout ceci et y mettre aussi à l'intérieur quelque chose de sérieux, à savoir l'information qui contrôle l'information et l'acquisition de l'information et en fait les concepts aussi de censure. Et je pense que la censure, c'est quelque chose de réellement négatif, très mauvais. Mais je voulais quelque chose qui soit aussi bien ridicule, mais qui ait aussi une intrigue. Et donc, on a ce groupe-là de libraires, hein, très très méchants, qui veulent gérer le monde. C'est tellement ridicule. Mais c'est aussi intéressant parce qu'ils contrôlent l'information. Et donc, vous voyez, ces livres, ces romans, sont une façon pour moi d'être plus détendu et aussi de regarder les choses d'un point de vue beaucoup plus humoristique, mais aussi pour pouvoir explorer des choses que je ne peux explorer dans ma fiction plus adulte.
Se définit comme un méchant garçon, tout le moins c'est le regard qui porte sur lui-même. Comment est-ce que vous le voyez ? Est-ce que c'est un regard sur l'adolescence ?
Oui, d'une certaine façon, Alcatraz. Bon, beaucoup de personnes me demandent quel est le personnage que j'aime le plus. C'est lui, en fait. Hein. Je me suis regardé, moi, à cet âge, et j'ai essayé d'y mettre tout ceci dans un livre, dans une histoire. Et oui, donc il me représente d'une certaine façon, mais il représente le côté positif de moi. Ce que je voulais faire avec Alcatraz, eh bien, c'était d'avoir un monde magique, qui soit drôle, mais ridicule aussi à la fois, mais qui aussi avait une certaine vérité. Et le concept principal de la série Alcatraz, eh bien, c'est que chacun dans Alcatraz, et de la famille Alcatraz, a des pouvoir magique, un petit peu bizarre, un petit peu stupide. Son grand-père, par exemple, avait des super pouvoirs et il pouvait donc arriver en retard à ses rendez-vous. Et c'est quelque chose qu'il faisait très très bien, mieux que quiconque. Et Alcatraz, lui, eh bien, c'est qu'il est super pour casser les choses. Et vous voyez, donc, il peut aussi donc trébucher facilement. Vous voyez, donc, ce sont des pouvoirs un petit peu stupides. Mais l'idée qui se cache derrière tout ceci, c'est ce concept d'utilisation de ces concepts de façon, de ce pouvoir de façon un petit peu intrigante pour différentes choses. Dans le livre, il utilise donc ses super pouvoirs pour arriver plus tard que la balle qui va le tuer. Vous voyez, donc, où il sera aussi en retard à sa propre exécution. Donc, quelqu'un veut le tuer et donc il sera tellement en retard que ils attendent plus, ils partent. Donc, vous voyez, Alcatraz va casser les chaînes qui le retiennent. Donc, vous voyez, tout ce les concepts de ce livre, en fait, c'est que l'idée que l'on regarde comme étant des défauts, en fait, peuvent aussi être des talents si on l'utilise de la bonne façon. Je me regarde à cet âge. Et donc, pour moi, j'adorerais, en fait, le danger. Hein. Et c'est pas avant que j'ai découvert donc, la fantaisie que je me suis rendu compte que je pouvais utiliser tout ceci de façon utile. Sinon, personne ne faisait attention à moi, puisque j'étais un rêveur, voilà, c'est tout. Mais c'est devenu mon plus grand talent. Mais ça m'a beaucoup bloqué auparavant, lorsque je l'utilisais de façon, pas de la meilleure façon. Mais bon, chaque aspect de chacun de nous, votre confiance en vous peut devenir une arrogance et vous conduire à des problèmes, ou alors ça peut être quelque chose de très positif pour faire que vous allez faire des choses magnifiques. Un autre aspect de notre personnalité peut aller dans un sens ou dans l'autre.
De travail et d'écriture, est-ce que c'est la même chose, vous travaillez de la même façon entre par exemple l'Empire Ultime et un recueil d'Alcatraz, enfin un livre d'Alcatraz?
Actually, I don't. Non, en fait, c'est totalement différent. Pour le dernier empire, l'Empire Ultime, pardon, j'ai fait un premier travail. J'ai planifié pendant des mois et des mois. Et ensuite, j'avais donc une synopsis très, très mélangée. Bon, il y avait trois romans au début. Hein, et je voulais qu'il y ait une cohérence dans tout ceci. Et je devais avoir donc une ligne directrice importante pour couvrir l'ensemble. Et j'ai planifié, j'ai fait pendant très très longtemps. Mais pour ce qui est de la série d'Alcatraz, je voulais qu'il y ait de l'improvisation. Je voulais qu'il y ait un sentiment de liberté, de libération en fait. Et donc très très peu de planification. Et j'ai improvisé. Je ne peux même pas le dire en anglais le mot. Donc j'ai improvisé, voilà, bon point. J'ai improvisé tout ceci au fur et à mesure de mon écriture. Et en écrivant un livre de cette façon, eh bien en fait, c'est comme si on sautait d'un avion et qu'on essaye d'accrocher le parachute avant de tomber par terre, quoi. Donc c'est très excitant, c'est très intéressant d'écrire un roman de la sorte, mais ça crée aussi beaucoup de spontanéité. Mais en même temps, bien sûr, ça n'a pas la cohérence de quelque chose comme l'Empire Ultime. Et donc, vous voyez, il y a des tactiques d'écriture totalement différentes.
D'un dernier projet, et puis après on passera aux questions du public. Simplement, Brandon Sanderson a été choisi pour continuer et terminer le cycle de La Roue du Temps de Robert Jordan. Peut-être simplement nous raconter un petit peu comment ça s'est fait. Vous nous en parliez tout à l'heure. Il y a eu un mot sur le blog et une admiration pour Robert Jordan. Dites-nous.
Yes, oui. Alors, La Roue du Temps, oui, c'était ma série de fantasy de jeunesse préférée. C'était l'un des quelques romans que j'ai pu lire en tant que jeune et en tant qu'adulte. J'ai aussi pu le relire et trouver une autre façon qui m'intéressait encore plus. C'est en fait l'un de ces livres, comme Dune ou Thomas Carvenan, qui ont des niveaux de lecture différents, en fait. Et donc, j'ai admiré Robert Jordan, oui. Et lorsqu'il est décédé en 2007, eh bien, j'étais vraiment en dessous de tout. Et nous avons pensé qu'il fallait vraiment faire quelque chose. Quelques semaines après sa mort, sa veuve m'a appelé, sans que je m'y attende, et m'a demandé si je serais intéressé à terminer la série. Ça a été vraiment une surprise pour moi, puisque je n'avais jamais rencontré ni elle ni lui, d'ailleurs. J'étais un admirateur de son travail, j'avais lu tous ses romans, mais je ne savais pas que je pouvais vraiment être dans son écriture. Donc ça a vraiment été une surprise. Et sa femme avait donc publié Ender's Game de Scott, avait donc édité bon nombre d'auteurs célèbres, et elle avait découvert en fait Robert Jordan et ensuite l'avait épousé. Avant de mourir, Robert Jordan lui avait demandé de trouver quelqu'un pour terminer sa série, et elle a donc cherché quelqu'un. Et elle a trouvé un ami qui... Enfin, elle a trouvé que j'avais écrit sur l'horlogerie et l'influence que ceci avait eu, que Robert Jordan avait eu sur mon écriture. Et donc, elle m'a appelé et m'a demandé si j'étais intéressé. Ensuite, elle a lu L'Empire Ultime, et une fois après l'avoir lu, elle m'a rappelé en disant: oui, je pense que vous êtes la personne pour le faire. Et donc, oui, je vais terminer cette série.
C'est difficile de se mettre dans les pas de Robert Jordan, de s'approprier son univers pour continuer l'histoire.
Yes. Oui, 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 ça a été difficile. Je l'ai lu depuis que j'étais enfant. Et donc, je savais, donc, je connaissais le monde, son monde assez bien. Mais le lire en tant que fan, c'est totalement différent que de l'écrire. Et il a fallu que je réfléchisse beaucoup avant de pouvoir décider de quelle était la meilleure façon d'approcher tout ceci. Mon travail n'était pas d'aller directement dans le livre, non. En fait, ce que je devais, c'est d'être un co-auteur. Ils auraient pu prendre quelqu'un qui aurait été totalement invisible, mais ils ont dit non. Ils ont voulu mettre mon nom sur la couverture, et donc il fallait quelqu'un. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé que je n'allais pas imiter son style, mot pour mot. J'ai décidé que je voulais donc écrire sur les personnages, comme s'ils écrivaient sur eux-mêmes. Puisque donc La Roue du Temps, c'est vraiment une série conduite par les personnages. Et ce faisant, je pensais que le livre sonnerait mieux. Et donc, il y a eu un nouveau directeur qui était venu. Et si on pouvait être sûr que ces acteurs soient toujours les mêmes que dans le livre, eh bien, l'histoire continuerait à fonctionner pour les lecteurs. Et c'était mon objectif principal, de capturer cette vision et ces personnages, ce qu'ils étaient.
Vous avez repris toute la trame, tout relu, tout replacé au fur et à mesure. Comment ça s'est fait, concrètement ?
Yes. Oui. On m'a donné environ 200 pages de manuscrits, pour commencer, et il n'y avait pas d'ordre. Parce que Robert Jordan écrivait sans ordre. Hein. C'était juste une liste de scènes, de questions-réponses, de chapitres qu'il avait écrits et de choses qu'il avait dictées, en fait. Hein. Même sur son lit de mort, il a dicté plusieurs scènes. Et donc, il fallait remettre en place. Il y a beaucoup de descriptions, il y a aussi des dialogues. Et donc, j'ai pris tout ce matériau-là et je me suis assis, j'ai relu toute la série depuis le début. Je l'avais déjà lu plusieurs fois, mais là, je l'ai relu en tant que auteur, en sachant que je devais faire la fin. Ça m'a pris 3 mois de travail, de prise de notes, pour prendre toutes ces scènes et essayer de les mettre dans un ordre à peu près logique. Et ensuite, je suis allé à Charleston, d'où il était, j'ai rencontré sa femme, ses deux assistantes, et nous avons passé en revue donc tout ce matériau point par point, en disant voilà, je pense qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça ici, et de nouveau en essayant de comprendre en fait l'âme de ces romans et de mettre tout ceci dans mon travail, et pour que je puisse avoir moi ma propre intrigue. Il nous avait laissé beaucoup de choses, mais pas tout. Et donc, c'était vraiment un hybride de nous deux, le résultat. Et je pense qu'il fallait que ce soit son livre, et non pas moi, terminant ses livres, fait qu'on soit sûr que ce soit la fin que lui aurait voulu. Il a donc fallu que je contrôle aussi, moi, mon approche en tant que fan. En fantasy, on a beaucoup ces romans, mais lorsqu'on est en charge de la chose, on a tendance à aller vers l'étrange. Et donc il fallait vraiment garder à l'écart là, le fan, et essayer de comprendre ce qu'il voulait que lui, il voulait que les livres deviennent. Pardon. Et donc je pense que c'est la meilleure chose que j'ai jamais faite.
Vous avez, vous, du coup, on parle en tant qu'auteur sur l'œuvre de Robert Jordan. Vous êtes à la fois admiratif, à la fois il y a des choses que vous pensez qu'il aurait, il aurait pu mieux faire, peut-être. Quel est votre regard ?
You know,
je ne pense pas généralement à ces choses qui auraient pu être mieux faites. Non. Ce que je regarde, c'est si je réfléchis trop en disant ils auraient dû faire ci, ils auraient dû faire ça, ça, alors j'arrête de lire. C'est un livre que je mets sous de côté. Pour des auteurs qui sont de bons auteurs, bon, ils auraient pu faire des choix différents des miens, mais c'est ce que j'aime, c'est ce que je préfère, parce que c'est la façon dont on gère l'histoire et on apprend, bien sûr. Avec Robert Jordan, j'admire plusieurs choses. Sa capacité à avoir des intrigues très compliquées sur des périodes très très longues, c'est quelque chose de très subtil. Il était aussi très majestueux dans l'écriture des points de vue des personnages. Donc on sent vraiment qu'on le savait, qu'on savait qui étaient ces personnages. Et quelquefois, il faut juste quelques lignes pour établir ceci. Mais si vous lisez, par exemple, Matt, hein, le personnage de Matt, ce personnage, vous voyez qu'il y a des personnages qui sont tellement différents. En un seul paragraphe, ils regardent le monde différemment, ces deux personnages. Et c'est quelque chose de très immersif. Ça vous conduit à voir le monde comme eux le voient. Et c'est ça, vraiment, la majesté que l'on y trouve.
Vite, car il est déjà 2h10. Est-ce que quelqu'un aurait des questions ? Parce que moi, j'ai encore des tas de questions à lui poser, mais si quelqu'un veut lui poser une petite question, c'est le moment, allez-y. Madame là-bas... monsieur là-bas, Pierre, madame, il y a un micro qui arrive.
Bonjour. Je suis très fan de La Roue du Temps, donc je suis venu aussi pour vous rencontrer. Comment vous avez fait pour travailler avec autant de personnages ? Parce que La Roue du Temps, c'est 10-15 personnages principaux. Comment est-ce qu'on finit une œuvre comme celle-ci avec autant d'intrigues qui se croisent et qui se chevauchent les unes des autres?
Ça a été la partie la plus importante, la plus difficile. Pour les personnes qui n'ont pas lu ces romans, La Roue du Temps a plus de 2000 personnages. Et il y a une quinzaine de personnages principaux, comme l'a dit ce monsieur. Ce que j'ai fait, en fait, c'est de faire des groupes de personnages pour l'intrigue. Et j'écrivais ensuite l'intrigue pour ces personnages, dès le début de l'intrigue jusqu'à la fin de leur intrigue. Et ce faisant, je pouvais garder à l'esprit aussi tous ces autres personnages qui allaient fonctionner avec eux. Et ensuite, passer à un autre groupe de personnages et relire ces scènes pour lesquelles on les trouvait dans l'œuvre de Robert Jordan, pouvoir comprendre qui ils étaient. Je m'asseyais et j'écrivais pour ces personnages directement. Et donc, à chaque fois, je commençais à relire donc l'œuvre de Jordan à partir du point de vue de ces personnages, de ce groupe de personnages. Et ensuite, donc, il y a une sorte d'arc un peu plus grande, et je commençais vers une autre. Après avoir fait ceci pour tout le groupe, tous les groupes de personnages, je les ai reliés, relu les livres plusieurs fois, en adaptant, en changeant, en y révisant tout ceci.
pour le premier de la série que j'avais pu écrire, j'ai fait 17 projets pour ce premier tome que j'ai écrit de 900 pages. Ça m'a pris environ 18 mois de travail pour faire toutes ces révisions, pour être sûr que j'avais tout au bon endroit et que j'avais toutes les intrigues au bon endroit. Mais c'était vraiment un travail très difficile.
Question juste devant, si vous pouviez relever la main. Voilà, elle arrive.
Alors j'avais une question un peu tendancieuse. Est-ce que vous avez eu des influences de livres plus classiques ? Alors en fait, je lis de la fantasy depuis assez récemment et j'ai vraiment adoré tout ce que vous avez écrit, mais j'ai parfois un peu de mal avec la fantasy plus classique, que je trouve un peu plate, parfois un peu ennuyeuse. Et je suis parallèlement une fan de Jane Austen et je retrouve beaucoup le côté féminin de Jane Austen dans vos livres. Je ne sais pas si c'est une coïncidence ou pas. D'habitude, les auteurs masculins, même si j'aime leurs livres, en général, leurs personnages féminins, je ne suis pas tellement convaincue par leur naturel. Et dans les vôtres, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup les personnages féminins. En particulier dans le dernier, j'aime beaucoup la jeune fille qui apprend par les livres. Donc c'est vrai que moi, j'ai aussi beaucoup lu. Et c'est vrai que la façon dont elle lit et le dessine m'a vraiment fascinée. Donc, est-ce que vous avez été influencé par d'autres types de littérature ?
Yes, very much.
Oui, beaucoup. Les personnes m'ont déjà parlé de ce point et j'ai eu une réponse assez bonne sur le pourquoi j'aime avoir des personnages féminins très forts. Une des raisons, c'est ma mère, qui a toujours été là dans ma vie, qui m'a toujours aidé. Elle a été reçue première dans sa classe de comptabilité et elle était la première femme dans ce cours de comptabilité. Et mais en plus de tout ceci, bon, j'ai commencé à lire de la fantasy avec Barbara Handley, Ian McCaffrey. Donc c'était les premiers écrivains que j'ai pu lire. Et mon opinion sur la fantasy a été fortement influencée par ces écrivains femmes. Lorsque j'ai commencé à lire de la fantasy et lorsque j'ai découvert Robert Jordan, je pensais que pendant un certain temps, seulement des femmes peuvent écrire une telle fantasy. Et c'est en lisant que j'ai vu que des hommes pouvaient aussi écrire une superbe fantasy. Bon, c'est un des aspects de tout ceci. Vous parlez aussi de la fiction classique, littérature classique. Jane Austen, c'est aussi un de mes auteurs favoris de tout temps. Je suis un grand fan, j'adore Pride and Prejudice et Emma, bien sûr. C'est vraiment une écrivain surprenante, avec beaucoup d'humour, sans être folle, et qui a un talent merveilleux. On peut avoir de la tragédie et de l'humour, et de la drôlerie en même temps. Dans mes grands amours, je lis aussi Victor Hugo, hein, bien sûr, de vos auteurs. Donc sa capacité à avoir des personnages qui viennent de différentes parties de la vie, c'est une inspiration bien sûr pour tous les écrivains partout dans le monde. Autre chose que vous avez mentionné, c'est que la fantasy précoce en fait est peut-être plus difficile à lire que la fantasy moderne. Je suis d'accord avec vous. J'ai essayé de lire Tolkien lorsque j'étais plus jeune et en fait je n'ai pas pu finir. C'est peut-être plus dû à lui qu'à moi qu'à lui, mais bon, Tolkien, je pense réellement que l'écriture s'améliore si on est sur les épaules d'un géant. Et je pense que Tolkien était vraiment superbe, il a fait des choses magnifiques pour le genre, et il a inspiré bon nombre d'auteurs très talentueux, tels que Robert Jordan. Et d'autres auteurs, bien sûr, et Melanie Round, par exemple, qui ont écrit des romans qui me parlaient plus que ceux de Tolkien. Mais il n'aurait pu le faire sans Tolkien. Et ça ne signifie pas, en fait, qu'il sera toujours le meilleur auteur pour tout le monde. Non, je pense que ce qu'on écrit aujourd'hui, bon, je dis souvent qu'on est dans la troisième génération après Tolkien. Il y a eu Tolkien, ceux qui ont été inspirés par Tolkien, et les auteurs d'aujourd'hui, qui ont été inspirés par des auteurs qui ont eux-mêmes été inspirés par Tolkien. Donc vous voyez, troisième génération, et je ne prétends pas que je suis un meilleur écrivain que Tolkien, puisque ce n'est pas le cas du tout, mais j'ai au moins le bénéfice que Tolkien n'a jamais eu, à savoir j'ai lu Tolkien, si ça a un sens. Hein. Parce que j'ai lu Tolkien, que j'ai lu Robert Jordan, et que je peux voir ce qu'ils ont écrit, et créer des histoires, les utiliser, qui sont très intéressantes, qui vous engagent à être lu et qui vous apprennent de nouveaux trucs, bien sûr, aussi.
Du temps, oui, pour une dernière question.
Bonjour. Vous avez dit que rêveur quand vous étiez enfant, que vous aviez pu mettre ça dans les livres. Maintenant, vous faites à la fois la roue du temps, vous avez votre série The Stormlight Archives, et puis vous êtes professeur de creative writing et vous avez deux enfants. Comment vous managez tout ça?
That's a good question. Très bonne question. Ma femme me la pose très souvent. Ma réponse, je suis un écrivain. Et c'est ce que répondent beaucoup d'écrivains. L'écriture, c'est compulsif. Je ne peux pas m'arrêter. C'est comme respirer. Si je n'ai pas écrit pendant une journée, je suis très angoissé. Et donc, toutes les autres choses dans ma vie, oui, sont là pour équilibrer l'écriture, pour être honnête. J'enseigne à l'université parce que je pense que je dois interagir avec de nouveaux écrivains. D'abord, ça les aide, comme d'autres personnes m'ont aidé, moi. Mais rencontrer de nouveaux écrivains, c'est tellement intéressant, c'est très rafraîchissant. Et ça m'intéresse beaucoup, ça crée mon imagination aussi. Et il faut se souvenir de tout ceci. Et je pense que lorsque je suis très très occupé, il est important aussi d'avoir une famille. Bon nombre de personnes qui donc définissent des heures pour écrire, eh bien non, pas moi. Moi, je mets du temps pour ma famille. Ces deux heures là, dans cette journée, je vais les passer avec ma famille. Rien faire d'autre. Et donc, je me fixe des objectifs pour être sûr que je suis un bon père, que je joue avec mes enfants. Parce que si je ne le fais pas, je vais être consumé par mon art, que je vais me retrouver dans mon petit trou et que je ne pourrai plus jamais en sortir. Mais il faut en sortir parce qu'il faut avoir du matériau sur lequel écrire. Et donc, il faut vraiment être équilibré. J'adore ma femme, j'aime ma femme et mes enfants. Et donc, nous fixons certains objectifs pour passer du temps ensemble. Je n'ai pas à me déplacer pour aller au boulot, hein, par exemple. Beaucoup de gens passent du temps dans les trains. Non, moi, je peux le faire sur mon canapé. Et, hein, mon hobby, c'est l'écriture. Et la façon de me détendre, pour moi, c'est écrire. Donc, si je passe une bonne journée à écrire, je ne remonte pas à l'étage fatigué en me disant « Oh là, j'ai un boulot qui est très exigeant d'un point de vue physique ». Non, je remonte, je suis très détendu, j'ai fait quelque chose que j'adore. Et de par ce fait, je n'ai pas de fatigue mentale, même si j'ai travaillé pendant des heures.
De cette conférence, on va remercier Brandon Sanderson. Vous pouvez le retrouver tout de suite en dédicace avec Shinami Evil, Scott Westerfeld, Eric Lum, Gilles Francescano et Christophe Lambert, donc à la librairie qui est sur votre gauche. Et si vous restez ici, vous aurez droit à une conférence sur l'univers a-t-il une limite, votre question. Et de l'autre côté, à l'espace les carnets de vacances de Bellevue. Voilà, merci à tous.
Thank you.